Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je suis heureuse de recevoir Julien Tcherna, ingénieur et fondateur d'Equateur, un fournisseur d'énergie respectueux de l'environnement. Ce que j'ai trouvé assez incroyable avec Julien, c'est qu'il a eu le courage d'entreprendre dans un secteur extrêmement réglementé, extrêmement concurrentiel, et dans lequel, vu l'extérieur, il n'y avait pas de place pour un nouvel acteur. Et j'admire le fait qu'il ait choisi d'écouter sa conviction profonde qu'il souhaitait apporter sa pierre à l'édifice d'un monde meilleur. Julien nous partage dans cet épisode son parcours de vie et comment il est passé d'un ingénieur au parcours a priori tout tracé à un entrepreneur qui décide de reprendre le pouvoir de sa vie. Julien est un entrepreneur qui a choisi de s'écouter, de fuir lorsque des situations, pourtant confortables, ne lui convenaient pas complètement. Au cours de cette conversation, on revient avec Julien sur ce qui l'a poussé à sortir de son parcours classique et sécuritaire, quelles ont été les différentes expériences qui l'ont mené à la création de son entreprise actuelle, sa rencontre avec son associé Jonathan, les défis auxquels ils ont dû faire face pour monter Equateur, et l'équilibre indispensable entre vie professionnelle et vie personnelle. Un parcours entrepreneurial inspirant avec une idée qui m'est chère, créer des alternatives pour améliorer le monde d'aujourd'hui et de demain. Si cet épisode vous plaît, c'est en laissant 5 étoiles et quelques lignes que vous pouvez me le faire savoir. Je remercie aujourd'hui Kalinka qui a laissé le commentaire suivant. Toujours des sujets et des discussions intéressantes avec des personnes inspirantes. Je te suis depuis quelques temps déjà, j'ai découvert les podcasts avec le tien, et c'est une très belle découverte. Ne change rien. Merci beaucoup à toi, Kalinka, et à toutes celles et ceux qui ont pris le temps de laisser un commentaire. C'est vraiment la plus belle des récompenses de lire ces mots. Et je vous invite désormais à rejoindre ma conversation avec Julien. Bonjour Julien.
Bonjour.
Bienvenue sur In Power. Je suis ravie de vous recevoir et d'entendre l'histoire que vous allez nous raconter du coup sur Equateur. Mais avant ça, ma première question à mes invités, c'est de se présenter de la manière dont ils souhaitent.
D'accord. Ben, enchanté en tous les cas et ravi d'avoir été invité. Merci beaucoup. La manière dont je souhaite, je suis un jeune homme d'Aix-en-Provence qui a bougé un peu partout en Europe et qui a fini par atterrir à Paris et qui un jour a eu une conscience écologique et qui s'est dit au-delà de mon activité et de ce que je peux faire moi, il faut que j'essaie d'entraîner le maximum de gens dans ce que je crois pour que ça ait un impact et qu'on puisse arriver là où je veux arriver ou plutôt éviter ce que je voulais éviter à l'époque.
D'accord. Est-ce que vous vous souvenez ce que vous vouliez faire juste à la sortie du lycée, on va dire, juste avant de commencer vos études, quoi, parce que c'est souvent une période assez charnière, et parfois c'est hyper différent de ce qu'on se retrouve à faire actuellement, quoi.
Ouais, ce que je voulais faire, je crois que j'ai jamais voulu faire quelque chose, puisqu'on avait décidé que je ferais maths sup, maths spé, polytechnique, que j'ai pas fait. Enfin, j'ai fait maths sup, maths spé, mais j'ai pas fait polytechnique. Mais donc, je fais partie d'une famille de profs où déjà en cinquième, on m'avait dit, t'es bon maths, voilà ce que c'est polytechnique. Et donc, je suis sorti du lycée et j'ai fait maths sup, maths spé, ce qui était très, très pratique pour moi, puisque ça m'évitait de répondre à la question que vous venez de poser.
D'accord. Et je verrais. Vous aviez un petit délai, quoi, en gros.
J'avais un petit délai. Et donc, après, je me suis retrouvé ingénieur en télécommunication, parce que sur la plaquette, il y avait marqué les pieds dans l'eau, la tête dans les étoiles. Et je me suis dit, ouais, ça a l'air super, le campus. Et donc, j'ai choisi cette école-là, comme ça. Et jusqu'à ma fin de deuxième année, je ne savais même pas ce qu'était le métier d'ingénieur. Je n'avais même pas compris. Et c'est pour ça que j'avais fait c'était tout nouveau à l'époque, ça n'existait pas, mais donc ça arrêtait un an pour aller travailler. Et donc j'ai découvert le métier d'ingénieur à 20 ans, 21 ans, 20 ans, en faisant un stage d'un an chez Thomson CSF, s'appelle Thales à l'époque, où on faisait des radars pour les voitures, anti-collision. Maintenant il y en a partout, mais à l'époque il n'y en avait pas. Et j'ai découvert que c'était un très beau métier qui n'est pas fait pour moi du tout. Et donc à partir de là, il y a eu une recherche qui a pris du temps. C'est pas une recherche consciente. Il y a eu des changements, puisque je me disais, ça non, puis finalement ça oui, puis donc à chercher, à tâtonner, jusqu'à ce que je trouve ce que je voulais faire, l'énergie. Et ensuite, une fois que j'ai compris que c'est ça qui me plaisait, l'énergie renouvelable, et une fois que j'ai compris, comment je fais pour y arriver, alors que je suis sur une carrière qui n'a plus rien à voir avec, au moment où j'ai fait la bascule, un très très beau métier, très bien rémunéré, un cabriolet, cheveux dans le vent, j'ai eu à Milan, la classe. Et donc, une remise en question à ce moment-là. Et avant, donc, je suis parti en Pologne, je suis parti en Italie, je suis parti en Belgique, j'ai essayé différents types de métiers. Donc, j'ai mis aller de, si on part du bac, je ne vais pas dire en quelle année je l'ai eu, mais ouais, c'était quoi, 88, ouais. Donc j'ai mis 21 ans à répondre à la question, 19 ans à répondre à la question.
Mais c'est très 19 ans c'est à intéressant à parce que si j'en viens à cette formation donc de maths-spé et la découverte du métier d'ingénieur, c'est en fait vous êtes engagé dans la voie de l'ingénierie sans savoir vraiment ce que c'était.
Ah, sans savoir aucunement ce que c'était.
D'accord. Et est-ce que vous avez vraiment accepté ce que du coup vos parents vous avaient dit, ou est-ce que vous vous posiez quand même la question, est-ce que ça va me plaire, ou est-ce que vous aviez juste intégré le fait que ça devait être pour vous parce qu'on vous disait que c'était pour vous ?
Je suis pas quelqu'un qui projette beaucoup. Donc je suis naïf et je vois ce que j'ai envie de faire et ce qui me paraît un bon compromis entre, enfin maintenant je fais un peu moins de compromis, mais à l'époque, entre ce que veut ma famille et ce que je veux moi. J'étais bon en maths, il n'y a pas de doute. Faire maths sup, maths spé, ça me laissait dans mon lycée. Dans mon lycée, j'avais mes potes. Voilà, moi j'étais d'Aix-en-Provence, j'ai fait toute ma scolarité de la crèche jusqu'à la fin de la prépa dans 1,5 km de rayon. J'ai été là, j'habitais le jardin, le chien, le chat. Donc c'était un confort. Hein.
Ouais.
C'était un confort et ne jamais se poser la question sur la suite. Et puis après, ben, on se dit, tiens, en fait, c'est pas tout à fait ce que je veux faire. J'aime d'autres trucs. Mm. J'ai commencé à faire du théâtre en étant en école d'ingénieur. J'ai adoré ça. Mm. J'ai reçu une lettre de mon père bien sentie.
Ah ouais.
Quelques réflexions simples. ça s'indiquait. Pour être bon acteur, il faut 1. Avoir du talent, 2. Avoir une très bonne culture. Je ne sais pas si tu réponds à la première condition, mais je suis sûr que tu ne réponds pas à la deuxième.
Donc, ah ouais.
Sympa.
Et ça vous a pas. Enfin, ça fait trop de peine, ça
si, je... Bah, oui, mais je ne suis pas acteur. Maintenant, c'est une partie de mon métier. C'est devenu. Mais donc, je ne sais pas du tout si j'aurais été bon ou pas. Donc, après, c'est la vie. Hein. On fait ses choix. Et puis, je suis très, 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 très content de. Enfin. C'est un bonheur aujourd'hui. Ouais. J'ai une chance folle. J'ai une super famille. J'ai une boîte qui est à l'image de ce que je voulais. Qui marche bien. Et je bosse avec des gens que je trouve géniaux parce que j'ai recruté. Enfin, donc c'est énorme ce que je fais. Et donc il n'y a pas de regret. C'est comme ça, c'est la vie. Et puis je me suis bien amusé à faire un peu de théâtre après tout le temps dans ma vie. Et voilà. Mais c'est pour dire que il m'a fallu 19 ans pour comprendre exactement ce que j'avais envie de faire, et pour le réaliser, parce qu'une fois que j'ai compris, il a fallu le temps pour le réaliser, et il m'a fallu encore 8 ans de plus. Donc, à vos auditeurs, c'est pas grave, on peut prendre du temps, on n'est pas malheureux pour autant, et je regrette pas ma vie passée, du tout.
Et quand vous vous rendez compte que, en fait, ça vous plaît pas du tout, ça c'est un moment qui peut être assez stressant, ou qui peut vraiment faire remettre en question beaucoup de choses pour les personnes peut-être qui sont en train de le vivre. Quel conseil peut-être vous aimeriez vous donner à ce moment-là, quoi ? Comment déjà vous l'avez vécu, et est-ce que vous vous donneriez un conseil pour aborder les choses différemment ?
Alors c'est compliqué parce que est-ce que je donnerais un conseil ? Comme je regrette pas ce que j'ai fait, parce que si j'avais fait ça, j'aurais pas fait ce que j'ai fait. Donc moi, le fait de pas me sentir à l'aise par rapport à ingénieur recherche et développement, ça a fait que j'ai bifurqué, j'ai pris la première opportunité, je suis parti en Pologne pendant 1 an et demi. Ça a créé une partie de ma personnalité. Je me suis retrouvé ensuite, alors c'est l'époque du service militaire, mais à Rome, service militaire, ce qui fait que j'ai adoré l'Italie. Je suis retourné beaucoup plus tard. Aujourd'hui, ma compagne est italienne, mes deux enfants sont bilingues. Donc tout ça, ça a créé ma vie. Si j'avais fait autre chose, ben, tout ce que je trouve bien dans ma vie, je ne sais pas si... c'est le grand jeu de retour vers le futur. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que chaque fois que je me suis rendu compte que je ne voulais plus aller dans une direction, j'ai changé, un peu au hasard, mais j'ai pris chaque opportunité pour changer. Ça, je l'ai fait. Alors, c'est pas... J'ai pas dit « je veux absolument aller faire du théâtre et donc je vais tout lâcher pour ». J'ai dit « bon, ben, je veux faire ça. En même temps, je vois ce qu'il est possible de faire. » Et hop, je saute. Tiens, opportunité d'aller en Pologne. En Pologne, en 1993, c'était la fin de la guerre froide. Ça venait de s'ouvrir. Ouais. C'était tout nouveau. Personne n'y allait. Je pensais que le pays était en noir et blanc. Non, mais c'est vrai, je m'en suis rendu compte sur place. C'est-à-dire que je suis arrivé, j'ai dit, tiens, c'est bizarre, il y a un truc que je trouve bizarre dans ce pays par rapport à l'idée que j'en avais et tout. Et j'ai mis 2 semaines à me rendre compte. Ce que je trouvais bizarre, c'était les couleurs, parce que moi, j'ai grandi pendant la guerre froide et on ne m'a montré l'URSS et le Bloc de l'Est que en noir et blanc à la télé. Bon, on nous avait orienté très, très fortement. Et donc, et tout le monde pensait ça. Donc... Et puis après, je suis parti en Italie aussi par opportunité, puis après, etc. Donc j'ai fait tout ça. Chaque fois que je me suis retrouvé là où je voulais plus être, ce que j'ai toujours accepté de faire, c'est de lâcher ce que j'avais. J'ai des gens qui me disent, tiens, t'as pris énormément de risques dans ta carrière parce que t'étais en Belgique, tu cartonnais, t'as tout arrêté pour partir en Italie, et puis parce que t'étais à Milan, t'as tout arrêté pour faire ton master en énergie, et avant t'es parti en Pologne, on savait pas quoi, etc. Et je trouve pas que j'ai pris des risques, je trouve que c'était une nécessité pour moi, parce que j'étais dans une situation qui, même si vue de l'extérieur elle était confortable, elle correspondait au canon de trucs, pour moi elle l'était pas, et donc il fallait en sortir. Et chaque fois, je suis sorti sur des mouvements qui paraissent radicaux vu de l'extérieur, mais qui, en fait, étaient une bouffée d'oxygène pour moi. Mmh. Et puis après, ben, c'est comme ça qu'on se construit. Et si on regarde toujours devant, ben, au bout d'un moment, on finit par tomber juste, quoi.
Mmh, mmh. Donc, non, mais ça, c'est très intéressant. Bah, déjà, le fait que ce qu'on imagine n'est pas forcément ce qu'on ressent comme étant une réussite. Mmh. Et le fait que vous n'avez jamais fait de compromis sur le fait d'être heureux, épanoui dans ce que vous faisiez, quoi. Vous n'avez pas... Parce que parfois, en effet, on essaye tellement de se rassurer en se disant que oui, mais ce job à ci, ce job à ça... En fait, vous avez vraiment écouté... Enfin, vous êtes écouté vous-même, et quand vous sentiez que vous n'étiez plus à votre place, vous avez toujours changé de voie, quoi. Sans vous dire que c'était risqué, ou sans trop réfléchir, si je comprends bien.
C'était ça ou la dépression. Il y a un moment où vous avez un super job. L'exemple sur où j'ai tout arrêté pour partir dans l'énergie... Donc, j'étais directeur développement de l'Italie pour Alten. J'avais mon bureau. Quand les gens rentraient dans mon bureau, ils avaient déjà bien la tête basse. C'est-à-dire que j'étais haut, je gagnais ma vie comme voilà. J'étais une ville très sympa. Hop. Mais à la fin, ce métier ne m'apportait plus rien. Je m'y ennuyais. En fait, je fermais la porte de mon bureau et je jouais à des jeux vidéo pendant le jour. Enfin, c'était le...
Ouais, c'était un peu la prison la journée.
C'était la prison la journée en échange d'effectivement un salaire que j'ai toujours pas retrouvé. Je veux pas me vanter en disant ouais, j'ai choisi deux, j'ai pris le risque. Non, en fait, j'avais plus le choix et j'ai accepté de pas faire ce compromis-là qui était d'être heureux à l'extérieur, mais en fait faussement.
Ouais.
Et c'est important. Alors après, ça se fait pas tout de suite. Vous en rendez compte, puis après vous dites bon bah voilà, il me faut le temps de. Mais je vais faire quoi, je vais faire quoi.
Et comment vous avez trouvé alors ce fameux grand saut quand vous avez décidé de quitter l'Italie?
Alors il y a eu d'abord le saut sur l'énergie, c'est-à-dire que moi je suis ingénieur télécom au départ. Après, en cherchant, j'ai fait du business, c'est-à-dire j'ai fait de développement de business dans l'ingénierie. J'ai créé une petite activité énergie qui n'était pas mon secteur. Parce que ça m'intéressait, parce que je trouvais que le monde tournait là-dessus. Ma mère vient du Limousin, et on a un vieux moulin à eau. Et donc là, je me suis dit, tiens, il y a une roue qui pourrait tourner, ça produirait de l'électricité, je serais dans ma barque avec mon vin blanc qui refroidit dans l'eau, et ce serait tranquille. Et donc ça m'a intéressé, j'ai commencé à creuser le secteur de l'énergie. J'ai compris, donc tout ça, ça prend du temps, hein. L'impact du changement climatique, l'impact du gaspillage énergétique. Et donc, je me suis, vers 2005-2006, je me suis dit, on va vers Mad Max 2. Voilà. Et donc, je me suis dit, il ne faut pas, quoi. Et c'est là où j'ai commencé à faire des choses pour moi. Et un matin, je me souviens très bien, je me lavais les dents. Et donc, j'éteins le robinet, puisque je m'étais dit, il faut éteindre le robinet pendant qu'on se lave les dents. Et je me suis dit, mais ça ne suffira pas, ça, en fait. En fait, ça ne va pas te sauver de Mad Max 2. Et donc, il est temps que t'agisses au-delà de juste ton action personnelle. Et tu te vantes d'être un mec qui a une belle carrière. Bon, bah, crée ta boîte. Fais-le. Et dans l'énergie, bah, mets des roues dans les moulins de France. C'était ma première idée. Je l'ai toujours. Et donc, petit à petit, il ne se passait rien. Donc, ça restait un rêve. Et par contre, je m'enfonçais au côté plaisir du travail de l'autre côté. Et il y a un moment, j'ai dit, bon, bah, c'est pas possible. Il te manque quelque chose parce que tu n'arrives pas à faire le pas cette fois-ci alors que tu l'as toujours fait avant. C'est qu'il te manque quelque chose et il doit te manquer des compétences. Donc j'ai cherché un master dans l'énergie. J'en ai trouvé un fait par les mines de Paris à Sophia Antipolis. Je suis allé postuler. Ils sortaient tous d'école, hein, les élèves, à part deux. Et moi, j'étais 10 ans de plus, quoi. Donc j'étais un extraterrestre à l'époque. Ils m'ont dit, si tu te trouves un stage, nous on te prend. Je savais faire. Donc, j'ai trouvé un stage et j'ai tout lâché. Et je me suis retrouvé donc en septembre 2007 dans une chambre d'étudiants. Ils avaient revendu mon cabriolet et à Sophia Antipolis. Ouais. Voilà. Et je me suis dit, je vais reprendre une vie dans une chambre d'étudiants. Bon, ça, je n'ai pas réussi. Donc, j'avais un peu d'argent de côté quand même. Donc, j'ai rendu la chambre d'étudiant à Séville parce que je ne pouvais
plus. Vous aimiez l'idée de vous remettre dans la vie d'étudiant, mais dans les faits, mais en fait, dans les faits, pas là.
Non, ça, ça rentrait plus. Donc, je me suis pris un appart plus grand. Et puis voilà, et j'ai fait la formation et avec l'ambition de créer une boîte dans le renouvelable. Et j'ai appris énormément de trucs. Et puis, je suis sorti en octobre 2008. Et puis là, c'était la crise financière.
Ouais,
donc, mauvais timing, donc il faut faire autre chose. Et puis après, etc., etc., etc. Et donc, chômage, galère, en plus un premier enfant, etc., etc. J'ai fini par retrouver du travail dans les télécoms et j'ai pas lâché. Et un jour, en 2013, des anciens collègues de Belgique m'ont dit « Tiens, il y a des gens dans l'énergie qui cherchent quelqu'un en France. » Et donc, j'ai pris le poste et ça m'a définitivement lancé dans le secteur. Et au bout de 2 ans... J'ai démissionné avec Jonathan qui était mon bras droit dans cette boîte qui s'appelait l'Empiris et on a dit on va le faire tout seul et on a fait Équateur.
D'accord. Ah, c'est intéressant, mais c'est fou comme... Enfin, moi je me dis tout de suite c'est dommage quoi, que vous ayez eu cet élan, que vous ayez fait ce master et qu'en fait vous arrivez sur un marché en pleine crise. C'est aussi en fait savoir être assez rationnel quoi, et vous avez su, enfin vous avez réussi à vous dire je garde ce rêve en tête, mais là, il faut encore que je subisse encore un peu, mine de rien, quoi, que je l'accomplisse pas tout de suite, parce que c'est pas le bon moment.
Mais c'était surtout que je trouvais pas de solution.
D'accord.
Donc moi, je sors en octobre 2008. Je devais créer une boîte dans le solaire avec un pote, mais donc on trouve absolument pas d'argent. Je devais prendre à mi-temps un job dans la boîte qui m'avait fait un stage, qui, à cause de la crise, la veille du jour où je démarrais, me dit ciao bello. Là-dessus, ma compagne est enceinte. À ce moment-là, elle vit à Rome, je vis à Aix. Il faut faire un truc, quoi.
Il y a des choses à faire.
Ouais. Et donc, il faut réagir. Et donc, voilà, on a trouvé une espèce de compromis. On est allé à Paris. J'ai essayé de créer une première boîte dans le métier que je faisais déjà en Italie et avant en Belgique. Parce que je me suis dit, bon, bah, il faut que je vive, donc je vais faire le métier que je fais. Mais comme j'avais plus la flamme, ça n'a pas marché du tout. Et puis après, il y a un moment où ça commençait à être dur, là. Donc, ma première fille formidable était née. Mais bon, hein, on vivait à Paris, une ville dans laquelle je n'avais jamais vécu. C'est quand même assez cher, Paris. Et là, j'ai eu de la chance, c'est des anciens clients de Rome qui m'ont appelé. J'ai eu toujours des gens comme ça qui, au moment où je m'y attendais le moins, sont venus, en tous les cas, me proposer des trucs qui m'ont... Et donc ça, c'est des anciens clients de Rome, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, voilà, on a une boîte à Paris qu'on a rachetée, qui coule, est-ce que tu veux en prendre la direction ? C'était une petite boîte. Donc là, il y a un moment où il faut démarrer. Donc j'ai repris ça, ça m'a remis le pied à l'étrier. Et puis, j'ai fait mon job là-bas. Et là, j'ai été appelé ensuite par les Belges, qui m'ont dit, pareil, voilà, on a une filiale en France, est-ce que tu veux la reprendre ? Et donc, j'ai jamais oublié, en fait, j'ai continué à le dire tout le temps. Ça, c'est un truc. Si on veut arriver au bout, il ne faut pas lâcher. Je suis assez combatif. Je pense qu'il est très difficile de battre un adversaire qui ne se rend jamais.
C'est sûr.
Et donc, voilà, j'ai fait écrire dans la boîte « N'importe, je me bats, hein, Cyrano de Bergerac. » Et combatif, ça ne veut pas dire hargneux, ça veut dire... Je continue, puis tant pis. Puis un jour, c'est top, quoi,
ouais,
ça paye.
Ouais. Ouais. Et alors, quand est-ce que vous vous dites avec Jonathan que vous voulez lancer Équateur ? Parce que donc, vous commencez à travailler ensemble, j'imagine que vous ne vous connaissiez pas forcément avant.
Non.
Quand est-ce que peut-être vous avez commencé à lui parler de ce projet que vous aviez dans un coin de la tête ? Est-ce que vous aussi, est-ce que lui aussi l'avait ?
Oui, ça s'est fait assez vite. Donc, moi, j'ai démarré chez l'Empiris France, ce fournisseur d'énergie belge qui s'était lancé en France en mars 2013. J'ai rencontré Jonathan en entretien la semaine suivante. Il y a eu un fit, compétences, personnalité, etc. Dès le 1er avril, il était là. Et donc, on bossait tous les deux. Et dès le mois de septembre, on a pris un café à côté des Champs-Élysées. Et je regarde et je lui dis, mais on pourrait peut-être le faire tout seul. Et il me dit, ben, je pensais la même chose. Et puis, en fait, ça se passait très bien avec l'Empiris. Il y avait des tas de choses à faire. On s'entendait bien avec les actionnaires. Et donc, on a continué à le faire, nous. Et puis, un jour, les actionnaires ont voulu faire autre chose. On a compris plus tard. En fait, ils étaient en train de vendre leur boîte à Total.
D'accord.
Donc, nous, ce qu'on voyait, c'était que notre vision, qui était bien claire, c'était plus du tout la leur. Et que donc, on ne trouvait plus du tout de répondants et d'accord. Et que finalement, ça devenait très tendu.
Ouais.
Et on a dit... ciao, on va le faire nous, quoi.
Ouais.
Et puis, on a un peu hésité, C'est pas facile quand même. Hein.
Ouais.
Tourner autour du pot longtemps, 9 mois en gros, entre le moment où la première fois on a dit c'est sûr, on le fait, et puis le moment où on l'a vraiment fait, on a tourné autour du pot. On a fait un scénario aussi pour pas que l'empiriste nous empêche de démarrer une société concurrente, donc on a fait croire qu'on se détestait et tout ça.
Et ah oui, puis, comme rigolo. Quoi, ça vous a aidé le théâtre.
et puis voilà, on est parti en juillet et on a démarré en septembre.
D'accord. Bah, ça, j'aime toujours le début des histoires parce que c'est là où tout se joue au final. Donc, est-ce que vous vous souvenez du premier jour où vous vous retrouvez et vous commencez à bosser sur Équateur?
Ouais. Oui, très bien. Je me souviens de trois trucs. Il y a trois premiers jours. Le premier jour, celui où on a dit « c'est sûr, on va le faire ». On était allé rencontrer un entrepreneur qu'on connaissait, qui était du secteur, dans un café, et on lui dit, nous, on veut faire ça, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça peut marcher? Est-ce qu'on trouvera de l'argent? Donc, on était capable de mettre un peu d'argent, on avait des économies, heureusement. Par contre, on était sûr qu'il allait falloir lever des fonds. Et lui, il dit, ouais, pas de problème, de l'argent, il y en a, c'est fastoche, vas-y, même moi, j'en mettrai et tout. Bon, il n'en a jamais mis plus tard, et ça n'a pas été si fastoche que ça de trouver de l'argent. En tous les cas, nous, ça nous a dit, bon, bah, allez, on peut y aller. Mmh. Ensuite, il y a eu un premier week-end qu'on s'est fait dans le moulin dont j'ai parlé tout à l'heure et où on s'est dit on va se faire 2 jours là à la fraîche et puis on va se projeter un peu une espèce d'idée, de stratégie, de vision de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et donc ça a été le premier jour de travail. Et puis ensuite, le tout premier, ça a été à la chambre de bonne. On prend 2 tables, on prend 2 chaises, on installe des PC et puis on commence à bosser quoi.
Parce que ce qui est particulièrement difficile dans la boîte que vous avez montée, c'est que c'est pas quelque chose que vous pouvez commencer un peu on the side. Enfin, on dit parfois voilà, jamais vous avez une passion, faites-le en parallèle de votre job, comme ça vous voyez si ça prend. Vous avez besoin d'énormément de fonds.
Ouais.
Vous avez besoin d'une techno très pointue. Vous avez besoin de fournisseurs. Enfin, donc c'est vrai que là, vous deviez vraiment vous y consacrer à plein temps. Et est-ce que même à 2, ça a suffi pour développer Équateur ?
Alors, on n'était pas 2 tout à fait, puisque on savait déjà qu'on serait 4.
D'accord.
Et en fait, on a commencé un peu à bosser avant. Mais effectivement, on ne pouvait pas bosser sérieusement, puisqu'en plus, c'était une activité concurrente de la boîte dans laquelle on était. Donc, c'était impossible 2. Par contre, par exemple, tous les fournisseurs avec qui j'avais eu beaucoup de plaisir à travailler, l'agence de presse, l'agence de réseaux sociaux, etc., on est allé les voir, on leur a dit, voilà moi ce que j'ai prévu de faire, est-ce que tu me suivras ou est-ce que tu resteras avec l'ancien ?
Parce que c'était un choix à faire, quoi.
C'était un choix à faire pour eux, pas facile.
Ouais.
Hein, parce que, bon, personne ne savait qu'ils allaient être rachetés par Total, mais il y avait une boîte qu'on avait amenée à 150 000 compteurs, et donc qui allait avoir des dépenses marketing, etc., par exemple, et puis nous... Bah, on partait à zéro et avant qu'eux. Hein. Donc ça, on s'est assuré qu'il y avait un certain nombre de gens qui en avaient confiance, qui étaient très compétents, qui étaient d'accord pour bosser avec nous. Et puis, il y avait 2 personnes clés aussi qui bossaient avec nous dans l'équipe. Ce sont Cyril et Donia, à qui on a parlé du projet. Et je me souviens aussi d'une des dernières réunions qu'on a faites. On est allé voir un sous-traitant pour l'Empiris à Madrid avec Donia. Et dans l'avion, on faisait la liste de toutes les fonctionnalités soft qu'on voulait pour Équateur. Et on a encore le petit carnet, d'ailleurs, on n'est pas encore arrivé au bout.
Ouais.
Donc là, on avait aussi... Voilà. Donc on savait avec qui on allait bosser. Et puis, on l'avait déjà fait, puisque l'Empiris, c'était un peu la même chose. Donc, on s'est mis là. Le plan de projet, les tâches de chacun, c'était très, très clair. Par contre, effectivement, il y avait des choses qui étaient plus difficiles que d'autres. Trouver des fournisseurs d'énergie... Des grosses boîtes qui veulent bien nous en vendre. Au début, ceux avec qui je bossais avant, ils m'ont dit « Super, Julien, t'es gentil, mais reviens dans 4 ans, quoi. » Parce que là, nous, on est Statoil, on est les Norvégiens, donc le gaz, pour ton volume, tu trouves ailleurs, etc., etc. Enel pour l'électricité, même si je leur ai parlé en italien, m'ont fait « C'est une team. » On va attendre un petit peu là parce que on te donnera jamais rien parce que t'as aucune solidité financière et donc on te vendra rien. Et puis voilà, mais bon, ben après on prend son téléphone et puis on appelle tout le monde, hein, on se présente et puis on a trouvé.
Et à quel moment du coup vous êtes dit là il faut vraiment qu'on lève des fonds pour que le projet prenne une réelle ampleur
Alors on le savait dès le début. On a été un peu ambitieux, par exemple, sur le truc. Mais donc, nous, on a démarré, on a mis quand même 500 000 euros dans la boîte, 250 000 euros chacun. Donc, on avait tout mis, quoi. Plus on arrête de se payer, etc. Heureusement qu'il y a le chômage en France qui continue à vous rémunérer en partie. Et donc, on a démarré, j'ai dit, en septembre. À partir du 1er janvier, on a cherché des fonds.
D'accord.
Et c'est dur. Hein.
Ouais.
C'est bah, dur. Sur...
Enfin, après, vous aviez la chance d'avoir un réseau, mais c'est vrai que quand... en fait, c'est toujours dur de vendre une idée, quoi.
Parce on vend des slides.
Parce que vous n'aviez pas de... Voilà, vous avez... Enfin, c'est un cercle un peu vicieux, je trouve.
C'est ça.
Parce que, en fait, personne ne vous donnera d'énergie tant que vous n'aurez pas d'argent. Mais pour avoir de l'argent, bah, généralement, on attend que vous ayez de l'énergie. Donc, c'est vraiment la force de la persuasion. Et c'est là où je pense quand même qu'avoir une mission et un message... on peut toucher des gens parce qu'on parle avec le cœur, quoi. On parle plus qu'avec des billets.
Je sais pas si ça nous a aidé. Je sais que moi, j'aurais pas pu le faire. C'est-à-dire, les gens me demandent maintenant, mais c'est quoi l'exit ? Mais je sais pas, moi. Mmh. J'ai pas fait cette boîte pour faire un exit.
Ouais,
j'ai
fait cette boîte parce que... C'est toujours une question que je trouve assez dingue. Voilà. C'est comme si on crée une boîte en pensant à sa fin. C'est comme avoir un enfant, il pense à sa mort. Enfin,
c'est ça.
C'est terrible.
Et donc non, nous, on a dit, on va le faire parce qu'on a envie de le faire et qu'on sait le faire.
Mmh.
Et donc, je pense que ça aide beaucoup. Ça, ouais. Je suis d'accord. De se dire... Bah, en fait, la question se pose même pas. C'est prévu, je dois le faire. Alors que si on a prévu de faire un exit, peut-être on peut se dire, ah, bah, je lâche l'affaire, je vais faire un autre truc.
Mmh.
Hein, j'ai trouvé une autre idée.
Ouais, bah. Ouais.
Nous, non.
Cette idée ou rien.
Nous, c'était ça, cette idée ou rien. En plus, on a mis tous nos sous et on y croyait à fond. Le choc, ça a été de se dire, on y croit à fond. Dans le secteur, on est assez connu, donc les gens du secteur croient en nous. Par contre, en fait, les investisseurs, ils nous ont jamais vus. Et donc, ouais. Ils voient trois slides et voilà. Et on a mis du temps. On pensait pouvoir lever en 4 mois parce qu'on nous avait dit, c'est fastoche, j'ai de l'argent partout. Et en fait, on a réussi à boucler la levée de fonds qu'en décembre, donc 12 mois après.
Ah oui, quand même.
Enfin, on a fait une première levée de fonds participative qui a bien marché en septembre quand on s'est lancé sur le marché, donc en septembre 2016.
Donc en crowdfunding ou...
En crowdfunding, ouais. On a récupéré 240 000 euros. Le jour où on a lancé la boîte.
D'accord.
Ce qui nous a fait tenir jusqu'à décembre.
Ouais.
Le temps de signer avec, à l'époque, nos premiers actionnaires qui sont, ouais, toujours là, Aster Capital, BNP et Bouygues Telecom.
Ok.
Qui a été la première levée de fonds. Et à partir de là, ça s'est enclenché. Mm. Mais même, on a fait une autre levée de fonds, ça n'a pas été simple non plus. Enfin, c'est...
Ouais, si, ouais, jamais, en fait, si on peut le décrire. Vous avez, ouais, levé combien, du coup, pour les deux séries ?
En tout, là, on a levé 14 millions.
Ouais. Voilà. Non, mais c'est vrai que dans l'énergie, tout de suite, en fait, on trouve ça assez incroyable comme montant, mais enfin, j'imagine tous les postes de dépenses que vous devez avoir. C'est...
Oui, puis on est une grosse boîte maintenant. Enfin, cette année, on va faire 160 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y a 4 ans, on faisait zéro. Ouais. On est 70 sur 2 étages. On a 240 000 compteurs au quotidien. Ça fait 160 000 clients. Donc, on a aussi 70 personnes qui répondent au téléphone, en plus des 70 personnes à Paris. On a fait une levée de fonds participative en janvier, qu'a géré la responsable de communication, Marine, qui nous a permis de battre le record des levées de fonds participatives en actions, qu'on avait déjà battu l'année d'avant d'ailleurs, mais qu'on a rebattu en 6 semaines. On a levé 1,2 million d'euros.
Ouais.
Ce qui est incroyable, c'est que la première année, on a mis 12 mois pour avoir le premier million puis le deuxième. Là, en 8 semaines, on lève cet argent-là. Donc, on se dit, tout devient plus simple. Par contre, les besoins, ils ont augmenté aussi.
Ils ont augmenté, ouais.
Et donc, finalement, ce 1,2 million, bon, ben, ça nous fait très plaisir d'avoir des clients actionnaires. Par contre, c'est plus ça qui change l'équation économique de la boîte. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui demande pas mal de fonds jusqu'à ce qu'on soit à l'équilibre.
Mmh.
Et normalement, on devrait l'être 2021-2022.
Mmh. Ça, c'est aussi quelque chose, quand on découvre un peu l'entrepreneuriat, on a du... Enfin, moi, personnellement, quand j'ai vraiment rentré dans cet écosystème, je pensais pas qu'une boîte pouvait rester aussi longtemps déficitaire, en fait. C'est, pour moi, une boîte, c'était rentable dès le début. Alors qu'en fait, non, ça dépend vraiment de tous les milieux, ça dépend de toutes les dépenses, quoi, qu'il y a à gérer. Et l'énergie, c'est vrai que c'est vraiment un domaine où il faut accepter que ça viendra plus tard, quoi.
Mmh. Et ben oui, parce que nous, on fait de la masse.
Ouais.
Donc, on est rentable que quand on a beaucoup de clients, puisque les marges sont très, très faibles.
Mmh.
Et donc, c'est le volume qui crée la rentabilité, puisqu'au départ, on peut pas... Et donc, effectivement, moi qui viens du conseil au départ, enfin, une grosse partie de mon métier, ma carrière, c'était dans le conseil. Là, on est tout de suite rentable. Je recrute quelqu'un, parce que j'ai un projet, j'ai une rentabilité immédiate. Là, en fait, dans l'équation de la société, il y a un apport d'argent qui vient des clients, et donc la vente du produit. Et finalement, on peut dire un autre apport d'argent qui vient de la vente des actions.
Mmh.
Et au début, on a eu beaucoup de mal à lever les fonds, parce que c'était notre boîte. Et qu'au lieu de dire, ben, notre action, c'est un des produits, donc regarde, investisseur, tu as un beau produit, c'est une action, ça va prendre de la valeur, on est une belle équipe et tout, on vendait ça comme notre boîte perso, donc c'était très, très émotionnel, et le discours passait pas, parce que quand c'est émotionnel, vous prenez une objection, t'accroches à la table, bah, comment tu te permets ? Non, nous, on a lancé. Et donc, et c'est quand on a commencé à comprendre que bah, finalement, les investisseurs achètent des actions comme nos clients achètent de l'énergie en se disant c'est moins cher, c'est une bonne chose, je vais gagner avec, etc. Et qu'on a pu avoir un discours qui les a intéressés.
D'accord. Ouais, c'est intéressant parce que, en plus, du coup, je ne sais pas, Jonathan, lui, quel champ de compétences il avait, mais est-ce que vous avez deux profils très différents ou, d'après ce que je comprends, vous étiez quand même assez.
C'est yin et yang, ouais.
Ah, assez, ouais, carrément.
On est très complémentaires. Donc, lui, c'est tout le système informatique, donc d'accord. Tout la base, tout le moteur de la boîte, la facturation, la compta. Et moi, je vais être plutôt sur tout ce qui est la vente. Le marketing, le service client et le réglementaire, l'achat d'énergie. Et donc, on sépare ça. On a aussi deux personnalités qui sont différentes et complémentaires, deux parcours qui n'ont rien à voir. Moi, j'ai un parcours très, très académique, très classique. Vas-y, Mathieu, lui, pas du tout, bac pro, puis finalement BTS, puis DUT, puis etc. etc. Donc, c'est un parcours qui a rien à voir. Et ce qui est formidable, c'est que quand il y a un problème qui se pose, dans 90% des cas, on prend deux routes différentes et on arrive à la même solution.
C'est dingue.
Et c'est hyper rassurant. Puis maintenant, on travaille ensemble. Enfin, c'est un plaisir. C'est comme un double de tennis. On se connaît bien, quoi.
Ouais.
Donc, il y a quelques personnes qui essaient de jouer sur « Ah, mais non, mais machin m'a dit, non, mais Julien m'a dit, non, mais Jonathan m'a dit. » Puis en fait...
Vous savez, vous. Voilà, Et comment est-ce que la boîte a grandi ? Parce qu'en effet, donc, aujourd'hui, vous êtes 140, si j'ai bien compris, si on compte aussi les personnes au service client, dont 70 dans l'équipe d'Équateur. Vous étiez 2 ou 4 il y a 4 ans. Quelles ont été un peu les grandes étapes de la croissance d'Équateur ? Est-ce que tu arrives à voir, toi, un peu, ces 4 dernières années ? Quels ont été les milestones ?
Ouais, donc il y a eu... d'abord, quand on a été pris dans un incubateur.
D'accord.
Et d'un coup, on a existé un peu. On a déposé, ça a compté. C'était vers décembre, je pense, 2015.
C'était quel incubateur, du coup ?
C'était Paris Tech Entrepreneur.
OK.
Et où on s'est dit, tiens, il y a d'autres gens qui croient en nous. Et donc là, on était les quatre. On bossait séparément et un jour par semaine à la Thalys Lounge de la Gare du Nord, puisqu'on avait droit à 2 heures. Enfin bon. Donc on réservait la Thalys Lounge un jour par semaine grâce à nos cartes Platinum Thalys, puisqu'on bossait en Belgique avant. Donc on avait tous la Platinum. Et donc on avait droit à 2 heures par semaine. Donc à 4, ça faisait 8 heures. Donc on se bloquait le mercredi. Le reste du temps, on bossait pas ensemble.
D'accord.
Et donc l'incubateur a commencé à nous faire dire bon, ça y est, maintenant on a des bureaux potentiels. Donc on peut commencer à recruter. Et c'est ce qu'on a fait. Et puis, donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape, c'est quand on a commencé à vendre. Et donc, quand on s'est mis une date, en fait, on a dit le 13 septembre, on vendra. Et donc là, l'équipe petit à petit s'est constituée, parce qu'au début, recruter, c'est pas facile. Hein.
Ouais.
Enfin, ce n'est jamais facile, d'ailleurs.
C'est jamais facile, c'est vrai.
Et donc là, c'est la première équipe, le noyau dur est arrivé. Et donc là, on a commencé à vendre. Et ça, c'est le 13 septembre. Cette équipe-là, elle est restée longtemps, à peu près la même taille. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé ? Après, il y a un moment, ça a dérapé, même en 70.
Dérapé dans le bon sens ?
Oui, ça a dérapé dans le bon sens. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a réussi à faire la deuxième levée de fonds. Une fois qu'on a réussi à faire la deuxième levée de fonds, d'un coup, on a été très rassurés sur notre capacité à financer la boîte encore pour un certain temps. Et à partir de là, on s'est dit, bon, maintenant, pour continuer, il faut investir plus, il faut aller plus vite, il faut continuer dans nos idées. Et c'est là où il y a eu la deuxième accélération. Et puis ensuite, on a fait une croissance très forte, puisque... Donc, 240 000 compteurs maintenant, on en avait je pense 70 000 à la même époque l'an dernier, et donc maintenant la situation est beaucoup plus simple, enfin les banques nous regardent différemment, les actionnaires nous regardent différemment, il y a quand même
une confiance
là où quand on choisissait un service sur internet à 20 euros par mois en 2016 je disais mais à quoi ça sert vraiment, maintenant on n'est plus du tout là-dessus, donc ça nous permet d'aller plus vite.
Qu'est-ce qui vous a le plus aidé, vous pensez, en termes de croissance, si vous arrivez aujourd'hui à voir avec le recul, est-ce que ça a été la communication, est-ce que ça a été, enfin, je sais pas.
Alors nous, il y a deux choses. Il y a d'abord notre capacité à gagner des gros appels d'offres. Donc, on a gagné deux achats groupés organisés par UFC Que Choisir.
D'accord.
C'est du travail. Parce que pour gagner, c'est un gros apport de clients. Seulement, il faut pouvoir acheter l'énergie. Parce que sinon, vous jouez au loto. Mm. Hein, si je fais venir les clients avec un prix, mais que je n'ai pas acheté l'énergie, si le marché monte, je fais faillite. Donc, je ne peux jouer là-dessus que si j'ai trouvé la capacité d'acheter l'énergie si jamais je gagne. Et donc, ça, c'est un gros travail financier parce qu'il faut trouver des gens qui vous font confiance au cas où, etc., etc. Et donc ça, on a réussi à le faire. Et de la même manière, en B2B, où on a eu la chance de gagner très tôt un appel d'offres de la direction des achats de l'État et où on a fourni tous les établissements de public de France, toutes les écluses de France, c'est nous, le château de Chambord, c'est nous, le musée Picasso, c'est nous, l'ADEME, c'est nous. Et depuis le 1er janvier 2017, on a gagné l'appel d'offres en juin 2016. Et donc tout ça, ça a amené du volume et ça a crédibilisé le tout. Mmh. Et en parallèle, on a construit la société avec l'âme qu'on voulait y mettre. On n'a pas fait d'études marketing. Hein. Ni Jonathan ni moi ne sommes venant du marketing. On a juste dit, on pense que la société doit être comme ça. Mmh. Et que ce qui est très important, c'est le client. Moi, je viens du B2B. Donc, je ne sais pas vendre à la masse. Je sais vendre à quelqu'un. Mmh. Et ben, on a dit, ben, je vais vendre à tout le monde. À chacun, en fait. Pas à tout le monde, à chacun. Et donc, à partir de là, c'est choyer le client. Se mettre, être proche de lui et ça paye et ça crée des choses assez surprenantes. Donc il y a un hashtag Equator Squad qui s'est créé sur Twitter avec des gens qui d'eux-mêmes ont dit nous on va défendre Equator et ses valeurs et qui ont même décidé de se retrouver ensemble cet été et qui ont fait une soirée entre eux. Moi j'y suis allé, bon ils n'étaient pas beaucoup, il y en avait deux, mais c'est déjà énorme. On est à la Carcassonne, on a fait un dîner, voilà. Et ça, c'est des valeurs auxquelles on croit beaucoup. Et sur le court terme, c'est pas ça qui vous fait de la croissance. Par contre, sur le long terme, oui. Et c'est-à-dire que ben, les gens ont plaisir à être chez nous. Comme on a plaisir aussi à aller chez son boulanger ou chez son fromager. Et il faut que les gens ils aient le même plaisir en étant client chez nous.
Ben, c'est vrai que ça change le rapport, je pense, aux fournisseurs d'énergie. C'est vrai que moi, avant qu'on se rencontre et que je découvre ce que vous faites, c'est un peu la case à cocher, en fait, l'énergie. Mmh. C'est bon, bah voilà, ok, l'énergie check. Et en fait, je pense que quand on a cette prise de conscience écologique et qu'on veut changer sa façon de consommer, en fait, ça devient un vrai sujet. Et tout comme maintenant, je fais vraiment attention à où j'achète mes fruits et légumes, j'ai envie de faire attention à d'où vient mon énergie et connaître les personnes qui sont derrière. Donc, je pense que vous avez vraiment humanisé l'énergie et vous l'avez donné en plus du sens, quoi. Parce que, oui, ça pollue de consommer de l'énergie, mais ça peut être plus vert, ça peut être plus responsable. Donc ça, je trouve ça vraiment fort.
Ben, merci. non, mais c'est ça. On peut faire sa part en choisissant son fournisseur d'énergie. On peut faire des sacrifices à titre personnel, manger moins de viande, voire plus de viande du tout. Effectivement, choisir un certain type de vêtements et pas n'importe quel vêtement. La première chose à faire qui a le plus d'impact, c'est changer de fournisseur. Et en plus, il n'y a pas de perte de confort. Et ensuite, il y a des évolutions dans la maison pour baisser sa consommation sans perte de confort. On s'est toujours dit que les gens pouvaient se réapproprier l'énergie. En France, par le monopole, par l'historique, l'énergie, ça a toujours été le job du ministère de l'énergie, en fait. Vous voyez, c'est EDF qui sait, c'est le ministère qui sait, ils choisissent les bons trucs. Et en fait, non. Ils ont leur point de vue, mais ce n'est pas nécessairement le bon. Il y a des grosses boîtes qui se sont plantées. Kodak a toujours cru que l'argentique allait marcher. Puis finalement, ben, ils se sont trompés, même s'ils avaient découvert le digital. Et donc, nous, on pense que les clients doivent pouvoir choisir. Et c'est pour ça, d'ailleurs, on peut choisir son fournisseur, etc., pour faire leur part et agir, eux, et pas seulement à travers une intelligentsia énergétique qui, la plupart du temps, traite les Français comme « de toute façon, vous ne pouvez pas comprendre ».
Ouais.
Et en fait, si les gens peuvent très bien comprendre, il faut leur expliquer. Alors, il y en a, ils s'en fichent, mais ceux qui prennent le temps, ils vont comprendre aussi bien que nous et ils vont pouvoir faire des choix éclairés. Et c'est ça qui compte, faire un choix éclairé.
Tout à fait. Et comme vous disiez, c'est fou comme ce n'est pas un choix. Parce qu'en plus, parfois, il y a la peur de se dire, oh, mais si je change de fournisseur, ça va être long, ça va être compliqué. En fait, non, vous le faites. On n'a pas à s'occuper des papiers. Enfin, moi, ça, je trouve aussi, ça rassure énormément. Parce que c'est vrai que même si on s'y intéresse, on n'a pas envie de plonger dedans, forcément, et de passer énormément de temps à choisir. Et en fait, vous laissez le choix, quoi. On vous propose ce que vous préférez. Et en tout cas, vous savez qu'à la fin du mois, votre énergie, elle aura été plus verte. Et ça, je pense que pour toutes les personnes, en effet, qui veulent consommer mieux, c'est... Enfin, on dort mieux la nuit, quoi, presque.
Oui,
je trouve que c'est... Enfin, moi, c'est un peu comme aussi la prise de conscience que j'ai eue dans la mode. C'est qu'à partir du moment où on sait, et on sait comment on peut changer, mais on ne peut plus trop faire semblant. Ou alors, c'est que la conviction n'est peut-être pas assez forte. Mais voilà, quand on a une option alternative, et qui, en plus, dans lequel l'énergie, comme vous disiez, n'enlève aucun confort, bah, en fait, c'est un choix sans lettre, quoi. Enfin, pour moi, c'est un choix évident. Si on peut consommer mieux, sans que ça ne nous coûte rien, c'est que du positif.
Et si tout le monde peut comprendre ce que vous avez compris, ouais. Je serais ravi. Et vous disiez qu'il y a une angoisse au début. Il y a une angoisse au début. Hein. Même moi, la première fois que j'ai quitté EDF, c'était vertigineux. Je quitte papa, maman, je suis revenu à la maison. J'ai dit, ça y est, on n'est plus chez EDF. Ma compagne m'a regardé. T'es sûr de ce que tu fais? Oui, oui, en fait, oui, oui. Ouais, je suis le patron de la boîte.
On aura toujours de la lumière demain.
Et en fait, c'est le même réseau. Le réseau reste un service public, ouais. Ce qui est très important et ce que nous, on trouve très bien. Après, le choix, il va sur l'énergie verte, il va aussi sur une stratégie énergétique. Nous, on défend beaucoup la décentralisation de l'énergie. Je ne crois plus dans le futur de la grosse centrale, bien, etc. Je pense que tout sera beaucoup plus résilient s'il y a de la production un peu partout. Et donc après, c'est aussi aider nos clients à devenir producteurs. Là, cet été, on a vendu des petits panneaux solaires. Parce que c'est toujours compliqué, les panneaux solaires, c'est cher, on a peur des arnaques et tout. Donc là, on a trouvé des petits panneaux solaires moins chers qu'un iPhone, qu'on a proposé à nos clients. Ça a très, très bien marché. On en a vendu plus de 1500. Et donc là, bah, j'ai 1500 foyers qui vont commencer à produire un peu d'énergie eux-mêmes, et puis peut-être ils vont y prendre goût, et après ils vont se mettre à en produire de manière plus importante sur le toit. Et donc, voilà, il y a un mouvement derrière à lancer on trouve passionnant. Enfin, on est au début.
Ouais,
hein,
c'est incroyable. Du coup, ça donnerait des maisons qui sont totalement autonomes en énergie, c'est
Alors, totalement, probablement pas, puisqu'avec un panneau solaire, de toute façon, la nuit, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse quelque chose.
Ouais.
Mais avec une partie d'autoconsommation, une partie de surplus qu'on est capable, nous, de racheter. Et ce qu'on voudrait aussi, c'est même être capable que vous choisissiez à qui vous vendez votre surplus. Hein, c'est-à-dire, vous êtes ici, vous avez du surplus, vous avez un pote à Paris qui vous dit, bon, bah, le surplus, tu prends chez moi. Donc, nous, on l'enlève de la facture et vous vous arrangez avec lui sur l'argent, la rémunération. Et donc, finalement, dire, mais c'est même plus à nous de présélectionner la centrale. Chacun, s'il le souhaite, peut le faire et dire non mais moi c'est le collège, ils ont installé des panneaux solaires, je veux les soutenir en prenant l'électricité du collège, et voilà, ça c'est le bon, c'est les étapes à venir.
Ok, trop cool. Et je me demandais aussi parce que du coup là on écoute l'histoire d'Équateur et on voit que c'est quand même une belle success story, est-ce qu'il y a quand même eu des moments difficiles où vous avez douté de la pérennité du projet, où vous avez, voilà, vous êtes dit peut-être qu'en fait ça va pas le faire?
En fait, j'avais pas des cheveux gris quand j'ai commencé Équateur. Donc, ça va pas le faire, je me suis jamais dit comme ça. Mais par contre, il y a eu des moments durs, il y a eu un moment particulièrement dur. On en parlait avec Jonathan justement la semaine dernière. Je crois que j'en ai déjà parlé en interne. Il y a eu deux nouvelles qui sont arrivées en même temps, une très belle et une très dure. C'était au moment de la deuxième levée. On avait, pour nous, tout était prêt, tout était bon. Il n'y avait plus qu'une histoire de négociation contractuelle. Et en même temps, on avait été nominé comme meilleure marque verte du monde. C'était un concours à Reykjavik. Ils nous avaient appelés, ils nous avaient dit de participer. On était nominé en finale. Et donc, avec Jonathan, on est parti à Reykjavik. Moi, j'avais toujours rêvé d'aller voir l'Islande. Donc, c'était super. Hop. Et voilà, grosse soirée, gala, tapis rouge, bim, et on a gagné. Donc on a été la meilleure marque verte d'énergie du monde et en 2018. Et en même temps qu'on était là, on a reçu un mail des investisseurs qui devaient signer la semaine d'après, et qui nous disent finalement non. Et donc on est revenu à Paris, avec une réunion pluguée avec eux à 16h, c'est un mercredi, à 16h, en sachant que de toute façon, on n'allait pas les faire changer d'avis, avec le prix dans les mains et toute la boîte qui s'attendait à ce qu'on soit hyper joyeux.
Ouais.
Et on était en septembre et on avait de l'argent jusqu'à décembre. Et donc là, dans l'ascenseur, avec Jonathan, le prix, rien que dire français, ça me fait de l'émotion, devoir faire semblant que tout allait bien, alors que...
Vous savez pas comment
on savait pas comment on allait faire. C'était Hiroshima. Et ça, c'était... J'en ai encore des frissons.
Ouais,
hein. C'était
très
dur. Et puis, ben voilà, après, on dort, on se redresse, on repart, on prend son téléphone et on trouve des solutions. Mmh. Et on a trouvé des solutions. Et finalement, on a fait une levée un peu plus tard, mais ça s'est bien passé. Et ça, c'était un moment... Ouais, c'était le moment le plus dur.
Et dans ces moments-là, qu'est-ce qui vous donne cette énergie, sans mauvais jeu de mots ?
Le devoir est lourd comme une montagne et la mort est légère comme une plume. C'est trop facile de lâcher l'affaire. J'ai recruté du monde, Jonathan a recruté du monde. Ces gens-là comptent sur nous. Ils ont un job. Alors à Paris, encore, tout le monde peut trouver un autre job. Mais au Mans, au service client, c'est pas des bassins d'emploi qui sont hyper... voilà. On a envie d'aller au bout. On sait que ça vaut. On peut pas tout laisser tomber. C'est juste pas possible, en fait. Et c'est dans notre ADN de se battre. Et finalement, on dit à tout le monde qu'on recrute, vous allez avoir des bâtons dans les roues tout le temps. Allez au combat. Si c'était pas sincère, voilà. Donc c'est juste, on a repris notre téléphone pour se battre jusqu'au bout. Et puis on a trouvé des gens qui nous ont dit, ok, moi je suis avec toi. Et puis petit à petit, on a retrouvé ça. Mais les premières énergies positives, donc les premiers coups de téléphone, c'est de l'automatique. Hein, j'ai appris à pas lâcher l'affaire. Et les premières énergies positives viennent quand, pour la première fois, puis la deuxième, quelqu'un au téléphone dit « Ok, moi je suis là. Moi je t'aiderai, moi je suis d'accord. » Et après, on reconstruit.
Moi, je pense que c'est de savoir pourquoi on le fait. Hein. De ce que j'interprète, de ce que vous dites, c'est... Vous savez pourquoi vous le faites et c'est ce qui vous fera continuer quoi qu'il arrive. Quoi. Et bon, l'esprit de persévérance, ça a l'air quand même de aussi bien aider.
Oui, puisque dans ce secteur, de toute façon, la réglementation change tout le temps.
Ouais.
Elle est évidemment très influencée par les acteurs. Nous, on a 4 fournisseurs qui sont plus gros que nous. C'est EDF, Engie, Total, donc c'est quand même pas des petits acteurs en France, et Eni, qui est le premier du MIB20, qui est le CAC 40 italien. Donc, ces gens-là, évidemment, sont écoutés par le gouvernement et ils n'ont pas du tout les mêmes intérêts que nous. Donc, on est tout le temps confronté à ça, à tous les niveaux de la société. Et donc, ça devient un réflexe et c'est important. Et oui, je pense que... Enfin, il n'y avait pas de doute. Ouais. On doit ça à nos clients. On doit ça à nos employés. Et on doit ça à soi-même. Et donc, on va se battre jusqu'au bout. Mais on ne se le pense même pas comme ça. J'ai vécu des choses comme ça, mais à titre complètement perso. Je faisais de l'aviron de mer quand j'étais en école d'ingénieur à Brest. Et un jour, on est parti à deux sur une yole dans la rade de Brest pour s'entraîner pour le triangle hivernal. Donc c'était l'hiver. On est parti, la mer s'est levée, il a fait nuit. Ça bougeait beaucoup, beaucoup, beaucoup. On était loin. Il y a un moment... Tu t'es, tu rames, quoi. Tu t'es, tu rames. Et puis, c'est tout. Et puis, c'est tout. Et puis, à la fin, on est retourné au port. Et puis là, on s'est dit, merde, on n'aurait pas dû sortir. Mais il y a un moment, on n'est pas en train de se dire, j'aurais pas dû. Non, maintenant, tu n'as plus le choix. En fait, tu rames et tu vises le phare et tu avances, quoi.
Okay.
C'est ça.
Ouais.
C'est ça. On passe en mode automatique et je suis en tempête et je survis.
Comment vous faites pour quand même vous préserver on parlait même avant de démarrer des semaines qui ont été vachement dures avant le lancement, de toute l'énergie que ça demande. C'est un sujet que j'aborde de plus en plus. Comment est-ce qu'on ne devient pas l'esclave de sa boîte? Parce que quand c'est une boîte dans laquelle, enfin, quand c'est notre boîte déjà, mais même quand c'est une boîte dans laquelle on croit énormément, pour laquelle on travaille, c'est facile de se donner corps et âme et parfois de se perdre sans s'en rendre compte. Donc je sais pas si vous avez déjà vécu un burn-out ou en tout cas une situation où vous vous êtes dit là je tire trop sur la corde. Comment est-ce que vous arrivez quand même à...
Alors comme j'ai une grosse expérience avant et que j'ai déjà vécu un burn-out avant dans d'autres jobs, je me maîtrise par rapport à ça, beaucoup plus, je sais ça. Et puis surtout, depuis le début, ma compagne est là et elle a un super job, elle fait une carrière de feu. Donc d'abord, c'est une sécurité financière. Et puis c'est du soutien à la maison. C'est-à-dire que à la maison, puis mes filles aussi, mais bon, c'est plus facile, mais personne ne doute. Moi, je doute plus, et on me dit, mais non, tu vas t'en sortir comme d'hab. Et maintenant aussi, les employés aussi, je me souviens un jour, une personne à qui j'ai dit, putain, merde, là, quand même, il faut qu'on trouve de l'argent et tout. Elle m'a dit, bon, vous trouvez tout le temps. Puis pouf, et c'est barré. Ouais. C'est cool. Okay, bon, c'est alors, bon, mais si c'est pas ça. Donc, mais moi, je pense que ce qui préserve, c'est que, oui, il y a un choix de famille d'accepter que je fasse entrepreneur. Alors, j'ai les bureaux juste à côté de la maison, donc c'est aussi pratique. Comme le boulot de ma compagne fait qu'elle voyage beaucoup, enfin, sauf en confinement. J'ai pris l'habitude, moi, de m'occuper des enfants le soir. Et puis après, je recommence à bosser si nécessaire. Mais ça stabilise vachement. Ouais. Et pour moi, c'est ça.
Trouver son équilibre à soi.
C'est ça. Mais j'ai jamais passé trop de temps. Il y a un moment où... Enfin, j'ai la chance de me connaître.
Ouais.
Et de savoir à quel moment... si je continue à ce rythme ou avec ce truc, ça va tout casser. Donc,
ouais,
donc
c'est contre-productif.
Voilà. Je suis capable de, le jour où ça va pas, de dire désolé, j'annule toutes les réunions et je vais au cinéma.
C'est fort ça.
Et parce que je l'ai appris, parce que c'est comme ça que, ouais. Et boum, allez, je vais me taper le dernier Marvel et je dis rien à personne et je suis dans le cinéma et puis tant pis. Hein. Voilà, sinon c'est...
Ouais, donc, non, mais c'est soi avant tout, quoi, faut pas l'oublier en effet.
Et c'est important, moi je l'ai appris donc, dans mes jobs précédents, où effectivement j'avais fait ce burn-out et je sauvegardais de ça. Et après, mon chef m'avait fait comprendre que j'avais le droit de prendre du temps pour moi. Il avait fait ça de manière très habile. Et je m'étais dit, ah ouais, ben en fait, ouais, j'ai le droit de. Putain, on a des bons résultats, la boîte avance. J'ai le droit de faire une demi-journée au soleil si ça me fait du bien, en fait. Et je le dis aux employés. Je ne veux pas le savoir. Voilà. Après, si les gens ne bossent pas et s'il y a des très mauvais résultats, la situation est différente. Mais chez Equator, aujourd'hui, tout le monde fait très très bien son boulot et même un peu plus. Et donc, je ne suis pas là à vérifier. Tiens, pourquoi tu n'étais pas là hier, hein?
Ouais. J'ai deux petites dernières questions pour vous, Julien. La première, c'est est-ce que vous avez des ressources qui vous ont aidé dans votre parcours perso ou pro que vous avez envie de partager ou de recommander aux personnes qui nous écoutent, que ce soit un livre, un film, un documentaire, ce que vous voulez?
Des gens. J'ai eu des gens qui m'ont aidé tout le temps. Et ces gens m'ont aidé parce que je me suis toujours intéressé aux gens et j'ai toujours aidé... Voilà, il y a eu un échange qui s'est fait et j'ai toujours gagné au total à cet échange. J'ai aidé des gens qui m'a dit, mais en fait, je suis au chômage là, machin, t'es le seul qui m'a vraiment aidé alors qu'on se connaît pas tant que ça. Tu m'as demandé de l'aide, j'ai fait le max pour t'aider. Et donc ça fait que un jour ou l'autre, même si c'est pas la même personne, on a un retour. Je crois en l'humanité. Et globalement, voilà. I believe in the victory of good over evil, disait Bob Marley. Et donc, ça m'a aidé beaucoup, je pense. C'est-à-dire que chaque fois que j'ai eu des problèmes, c'est des gens, sans le savoir hein, que j'avais des problèmes, qui sont venus me proposer des choses. Ils sont venus me proposer des choses parce qu'ils avaient confiance en moi, parce qu'il y avait une qualité de relation qui fait qu'ils se sentaient... voilà. Et puis, est-ce que j'ai lu des bouquins, des trucs... Cyrano de Bergerac. Ouais. C'est cet esprit français, on va dire droit, mais tout seul, pas bien, mais tout seul, je me bats, tout le truc. C'est hyper inspirant. Et le panache est tellement beau. On adore ça en France. Hein. L'équipe de France est championne du monde de foot et on trouve qu'elle n'a pas eu assez de panache en gagnant. C'est assez bizarre comme pays. Mais je suis français pour ça.
Trop cool, bah merci. Et la dernière question que je vous pose, c'est la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour vous prendre le pouvoir de sa vie?
C'est pas se laisser faire par l'image que la société renvoie de vous. C'est pas parce que vous avez le poste, la carrière et le truc de top que vous êtes content. Et donc, prendre le pouvoir, c'est en fait, regarde ce que toi tu veux. Et pas ce qui fait plaisir aux autres que tu es. Et c'est pas facile. Hein. Et là, on prend le pouvoir et là, on finit par s'éclater. Mais même, on s'éclate tout le temps. Voilà, on fait des trucs nouveaux et on découvre et on découvre et on découvre et on avance, on fuit, on change, on change. Au début, c'était une fuite, moi, presque. Hein. À Brest, la Pologne, Mâcon, Rome. Et puis un jour, bing, on tombe dans sa case. Mais si on fuit jamais, ben on ne trouvera jamais sa case. Et on sera dans la case de quelqu'un d'autre, qui a peut-être l'air joli à l'extérieur, mais quelle tristesse.
C'est pas celle qui me correspond. Ouais.
Et j'ai le plaisir avec mon groupe d'amis de voir que chacun a trouvé sa case. Et elle est toute différente. Et on était tous au début dans la même école d'ingénieur. Et finalement, les vies sont complètement différentes. Et 80% des gens ont maintenant trouvé la case. Et il en reste quelques-uns qui sont malheureux parce qu'ils sont restés dans cette image renvoyée par la société et au lieu d'aller vers ce qu'ils aiment, en fait. Et on n'a pas tous envie d'être patron du CAC 40, quoi.
Voilà. Bah, merci beaucoup, Julien, pour tous ces mots de sagesse et pour tout cet échange que j'ai trouvé très inspirant. Pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur vous, sur Équateur, où est-ce que vous voulez qu'on les redirige ?
Bon, Équateur.fr, EKWATEUR.fr, on vend du kilowattheure, donc le jeu de mots.
Super, bah, je mettrai tout ça dans les notes du podcast avec aussi les réseaux sociaux d'Équateur. Et bah, j'espère à très vite.
Merci beaucoup, au revoir.
Merci de vous être rejoint à ma conversation avec Julien. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant @inpowerpodcast et @equateur pour qu'on puisse le voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi envoyer cet épisode à deux amis ou proches sensibles à la cause environnementale ou au contraire des amis que vous pouvez sensibiliser et aider. Vous pouvez leur suggérer de changer de fournisseur d'énergie pour un fournisseur d'énergie verte comme Équateur. Une action rapide, facile, peu coûteuse en énergie, au sens propre comme figuré, et qui fera beaucoup de bien à la planète. Vous pouvez aussi montrer l'exemple d'ailleurs, je sais que je l'ai fait personnellement dès que j'ai découvert Équateur, et j'en suis vraiment heureuse. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'InPower.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.